Descartes 2.0. Vendredi 25 juin 2021. Salle d'hypothèse, Maguire Air Force Base. Les gens fatigués sont querelleurs. Les gens épuisés le sont beaucoup moins. Il est 6 heures du matin lorsque Adrian, Tina et leurs 20 premiers experts s'installent dans une salle de commandement. À 7 heures, au rythme des hélicoptères qui les acheminent vers Maguire, ils sont 40. Les canapés, les tableaux interactifs sont installés. Un soldat branche la machine à expresso. Une minute suffit à exposer la situation. Suivent 10 minutes de questions et Tina et Adrian se contentent de répéter l'invraisemblable. Ces gens dans le hangar sont bien les mêmes que ceux qui se sont déjà posés 106 jours plus tôt dans le même avion. Le dialogue entre Adrian Miller et Riccardo Bertoni, en lice pour le prix Nobel 2021 de physique pour ses travaux sur la matière noire, résume la situation. « Vous vous foutez de nous, professeur Miller ?»« Si seulement. » À 9 heures du matin, alors que Tina Wong continue d'animer les réunions interdisciplinaires dans la salle des hypothèses, Adrian revient vers la Task Force. Meredith l'accompagne, ainsi qu'un grand type mince aux cheveux gris et exubérants, aux yeux d'un bleu acier. Silveria désigne un écran de téléconférence où s'affichent des visages connus. Professeur Miller, le président des États-Unis est en direct, de Rio, ainsi que les ministres des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale.
Ce phénomène est prodigieux, monsieur le président, commence Adrian, en se raclant la gorge. Mais comme le disait Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Nous sommes parvenus à 10 hypothèses. 7 sont des plaisanteries. 3 retiennent notre attention. Et l'une rencontre l'adhésion de la majorité. Commençons par la plus simple.
S'il vous plaît, dit Silveria.
Le trou de verre. Je laisse la topologiste Meredith Harper vous l'exposer.
Meredith saisit sur le bureau un crayon noir, une feuille de papier et plie cette dernière en deux. Elle a la nette impression de jouer la scène pédagogique d'un film d'anticipation à très petit budget, mais qu'importe.
Merci, Adrian.
Supposons que l'espace puisse se replier comme une feuille de papier, mais selon une dimension qui ne nous est pas accessible, qui n'est aucune des 3 que nous connaissons. Si notre univers est bien régi par la théorie des cordes, c'est un hyperespace en 10, 11 ou 26 dimensions. Dans ce modèle, chaque particule élémentaire est une cordelette qui vibre différemment des autres, aux dimensions enroulées sur elle-même. Vous me suivez ?
Le président américain reste bouche ouverte, présentant une forte ressemblance avec un gros mérou à perruque blonde.
Donc, une fois l'espace replié, on y fait un trou. Meredith Harper traverse la feuille de la pointe du crayon de papier et passe l'index dans la déchirure. Et on peut passer d'un point de notre espace à 3 dimensions à un autre espace très facilement. C'est ce qu'on appelle un pont Einstein-Rosen, un trou de verre de Lorentz à masse négative.
« Je vois », dit le président des États-Unis en fronçant les sourcils.
Cela respecte les lois de la physique classique. On ne dépasse pas la limite de la vitesse de la lumière dans notre espace einsteinien. Mais en ouvrant un vortex dans l'hyperespace, on peut voyager entre les galaxies en une fraction de seconde.
C'est une idée commune dans les romans, dit Adrian, qui trouve Meredith trop abstraite.
Dans Dune, de Frank Herbert, ou d'autres. Et l'idée est reprise dans un film comme Interstellar de Nolan, ou avec le vaisseau USS Enterprise, dans les Star Trek.
Star Trek, je les ai vus. Oui, s'exclame soudain le président.
D'habitude, enfin, c'est une manière de parler, poursuit Meredith, on traverse le temps et l'espace instantanément. Il n'y a aucune raison que quoi que ce soit se dédouble. Là, on a ces 2 avions.
C'est comme si l'USS Enterprise surgissait en 2 points de l'espace, s'enflamme Miller, avec 2 capitaines Kirk, 2 monsieur Spock.
2. Merci, professeur Miller, dit Silveria. Nous avons compris. Donc, la 2e hypothèse?
Nous l'appelons celle de la photocopieuse. Nous l'évoquions avec Brian Mitnick de la NSA.
Mitnick hoche la tête avec la moue du bon élève pas peu fier d'être mentionné.
Comme vous le savez, poursuit Miller, la révolution du bioprinting a commencé.
Pardon?
Soyez plus clair,
demande Silveria, qui anticipe l'agacement présidentiel et s'attribue le rôle du candide. On imprime en 3D de la matière biologique. Aujourd'hui, en une heure, on fabrique un cœur humain de la taille d'une souris. En 10 ans, la finesse de la résolution a doublé, la vitesse d'impression aussi, tout comme le volume des objets reproductibles. Si l'on poursuit les courbes exponentielles dans chacun de ces domaines, et en étant conservateur...
« Je suis conservateur !»
interrompt le président. Et Miller se demande un instant si c'est une plaisanterie. « Donc, poursuit le mathématicien, dans moins de 2 siècles, on pourra scanner en une fraction de seconde et imprimer tout aussi vite un objet comme cet avion avec une définition de l'ordre de l'atome. Mais 2 problèmes. 1. Où était l'imprimante ? 2. D'où viennent les matières premières pour fabriquer l'avion et les passagers ? Mais justement, cette image de la photocopieuse, intervient Meredith, suppose un original et une copie. Et sur la photocopieuse de notre bureau, ce qui sort en premier, c'est toujours la copie. Je vois, réfléchit Silveria à haute voix. L'avion copie se serait posé le 10 mars dernier, et c'est l'original qui viendrait de se poser. Dans ce cas, pourquoi traiter différemment les membres des 2 groupes au prétexte que le premier avion est sorti avant de la photocopieuse, conclut Meredith. Je voudrais évoquer la dernière hypothèse, reprend Miller. Elle emporte assez largement l'adhésion, mais c'est aussi la plus choquante. Sur l'écran, le président secoue la tête, puis, un froncement des sourcils prouvant la concentration, il demande. « Vous voulez parler d'un acte de Dieu ?»« Non, monsieur le président, personne n'a évoqué l'hypothèse, » répond Adrian, surpris. Silveria s'éponge le front. « Allons-y pour la 3e, Miller. Nous l'appelons l'hypothèse Bostrom. Je veux parler de Nick Bostrom. » Un philosophe enseignant à Oxford qui a proposé au début du siècle « C'est très vieux, soupire le président. » « Au début de ce siècle, » reprend Miller, « en 2002 exactement. » Je cède la parole à Arch Wesley de l'Université de Columbia qui est logicien. Un grand type aux cheveux fous s'approche d'un tableau, y trace une équation. F sim est égal au quotient de FPFINI sur FPFINI plus 1. Avant de se tourner vers l'écran avec un bon sourire et une certaine dose d'excitation. Bonjour, monsieur le président. Avant d'expliquer cette équation, je voudrais commencer par parler de la réalité. Toute réalité est une construction, et même une reconstruction. Notre cerveau est scellé dans l'obscurité et le silence de la boîte crânienne, et il n'a accès au monde que par les capteurs que sont nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre peau. Tout ce que nous voyons, sentons, lui est transmis par des câbles électriques, nos synapses, nos cellules nerveuses, monsieur le président.
J'avais compris, merci.
Bien sûr. Et le cerveau reconstruit la réalité sur la base du nombre de ses synapses. Le cerveau fait 10 millions de milliards d'opérations par seconde. Bien moins qu'un ordinateur, mais avec plus d'interconnexions. Mais dans quelques années, on arrivera à simuler un cerveau humain, et ce programme arrivera à une certaine conscience. Eric Drexler, le spécialiste des nanotechnologies, a imaginé un système de la taille d'un morceau de sucre capable de reproduire 100 000 cerveaux humains.
« Arrêtez avec vos milliards, je n'y comprends rien, » dit le président. « Et beaucoup de mes collègues non plus. Continuez votre démonstration, s'il vous plaît. »
« Bien, monsieur le président. » Je vous demande d'imaginer des êtres supérieurs dont l'intelligence est à la nôtre ce que la nôtre est à celle d'un ver de terre. Nos descendants, peut-être. Imaginons aussi qu'ils disposent d'ordinateurs si puissants qu'ils savent recréer un monde virtuel où ils font revivre de manière précise leurs ancêtres et les observent évoluer selon différentes destinées. Avec un ordinateur de la taille d'une toute petite lune, on pourrait simuler 1 milliard de fois l'histoire de l'humanité depuis la naissance d'Homo sapiens. C'est l'hypothèse de la simulation informatique, comme dans le film Matrix, demande le président d'un ton d'incompréhension. Non, monsieur le président, répond Wesley. Dans Matrix, ce sont des machines qui exploitent l'énergie corporelle de vrais humains, des esclaves enchaînés en chair et en os. Elles les font vivre dans un monde virtuel. Dans notre hypothèse, c'est le contraire. Nous ne sommes pas des êtres réels. Nous croyons être des humains, alors que nous ne sommes que des programmes. Des programmes très évolués, mais des programmes tout de même. Comme l'agent Smith dans Matrix, monsieur le Président. Sauf que l'agent Smith sait qu'il est un programme. Alors en ce moment, je ne bois pas mon café à une table, dit Silveria. Ce que nous percevons, sentons, voyons, ce serait aussi simulé? Tout est faux.
Général, ça ne change pas le fait que vous êtes en train de boire un café à cette table, reprend Wesley. Ça change seulement ce de quoi sont faits le café et la table.
Ce serait facile. La largeur de bande sensorielle humaine maximale n'est pas très grande. Simuler tous les sons, les images, le toucher et les odeurs n'aurait qu'un coût négligeable. Notre environnement lui-même n'est pas trop compliqué à contrefaire. Tout dépend du niveau de détail. Des humains simulés ne remarqueraient pas d'anomalie dans leur environnement virtuel. Ils auraient leur maison, leur voiture, leur chien et même leur ordinateur tant qu'on y est.
Comme dans la série britannique Black Mirror, monsieur le Président, souffle Adrian Miller.
Le Président fronce les sourcils et Whistler reprend. D'ailleurs, plus nous avançons dans la connaissance de l'univers, plus il nous apparaît fondé sur des lois mathématiques.
Sauf votre respect, professeur, l'interrompt Silveria, on ne pourrait pas, par une expérience, démontrer que vous racontez n'importe quoi.
Je crains que non, s'amuse Wesley. Si l'intelligence artificielle qui nous simule constate qu'un humain simulé va observer le monde microscopique, elle n'a qu'à lui fournir suffisamment de détails simulés. Et en cas d'erreur, il suffirait de reprogrammer les états des cerveaux virtuels qui auraient remarqué une anomalie. Voire revenir quelques secondes en arrière avec une espèce de « undo », vous voyez, et exécuter de nouveau la simulation d'une manière qui évite tout problème.
« Ce que vous racontez est ridicule », explose le Président. « Je ne suis pas une espèce de Super Mario. Et je ne vais sûrement pas expliquer à nos concitoyens qu'ils sont des programmes dans un monde virtuel. »
« Je comprends, monsieur le Président. » Mais d'un autre côté, un avion qui surgit de nulle part et qui est la copie conforme d'un autre, avec tous ses passagers et jusqu'à la moindre tache de ketchup sur la moquette, c'est invraisemblable aussi. M'autorisez-vous à vous expliquer cette formule que j'ai inscrite?
Non, allez-y, lâche le Président furieux, mais vite!
Je vous expose l'idée générale. Je voudrais vous démontrer qu'il est assez probable que nous fassions partie de ces consciences simulées. Il n'y a que trois destins possibles à une civilisation technique. Elle peut, bien sûr, s'éteindre avant d'arriver à la maturité technologique, comme nous en faisons la magnifique démonstration avec la pollution, le réchauffement climatique, la sixième extinction, etc. Pour ma part, je pense que, simulé ou pas, nous allons disparaître.
Le Président hausse les épaules, mais Wesley poursuit.
Non, ce n'est pas le sujet. Supposons, malgré tout, qu'une civilisation sur mille ne se détruisent pas toutes seules. Elle parvient à un stade post-technique et se dote d'une puissance de calcul inimaginable. Et supposons encore que, parmi toutes ces civilisations qui ont survécu, une seule sur mille ressente le désir de simuler des ancêtres ou des concurrents de ses ancêtres. Alors, cette civilisation technique sur 1 million, à elle toute seule, va pouvoir simuler, disons, 1 milliard de civilisations virtuelles. Et par civilisation virtuelle, j'entends chaque fois des centaines de millénaires virtuels pendant lesquels se succèdent des millions de générations virtuelles qui donnent naissance à des centaines de milliards d'êtres pensants tout aussi virtuels. Par exemple, en 50 000 ans d'existence, moins de 100 milliards de Cro-Magnons ont marché sur la Terre. Pour simuler Cro-Magnons, c'est-à-dire nous, c'est une simple question de puissance de calcul. Vous me suivez ?
Wesley ne regarde pas l'écran où le Président lève les yeux au ciel et poursuit.
L'important est ceci. Une civilisation hyper-technique peut simuler 1 millier de fois plus de fausses civilisations qu'il n'y en a de vraies. Ce qui signifie que, si on prend un cerveau qui pense, au hasard, le mien, le vôtre, il a 999 chances sur 1000 d'être un cerveau virtuel et 1 sur 1000 d'être un cerveau réel. Autrement dit, le « je pense donc je suis » du discours de la méthode de Descartes est obsolète. C'est plutôt « je pense, donc je suis presque sûrement un programme ». Descartes 2.0, pour reprendre une formule d'une topologiste du groupe. Vous me suivez, Président ? Le président ne répond rien. Wesley l'observe, qui garde son air buté et furieux, et conclut « Voyez-vous, monsieur le président, je connaissais cette hypothèse et jusqu'à ce jour j'estimais à 1 chance sur 10 la probabilité que notre existence ne soit qu'un programme sur un disque dur. Avec cette anomalie, j'en suis quasiment certain. Cela expliquerait par ailleurs le paradoxe de Fermi. Si nous n'avons jamais rencontré d'extraterrestres, c'est que dans notre simulation, leur existence n'est pas programmée. Je pense même que nous sommes confrontés à une sorte de test. Pour aller plus loin, c'est peut-être parce que nous pouvons désormais envisager l'idée d'être des programmes que la simulation nous propose ce test. Et nous avons intérêt à le réussir, ou du moins à en faire quelque chose d'intéressant. Et pourquoi ? Demande Silveria. Parce que si nous échouons, les responsables de cette simulation pourraient bien tout éteindre.